Nous allons poursuivre l'enregistrement sur l'étude du livre de Daniel. Je rappelle simplement pour la première partie que Daniel a été déporté à Babylone alors qu'il n'avait pas 20 ans avec d'autres jeunes en l'an 605 avant Jésus-Christ. Et vers la fin de sa vie, on pense qu'il aura un peu plus de 80 ans. Daniel a été formé pour être un haut fonctionnaire dans l'administration babylonienne. Il est pour nous un exemple de piété sans compromis. C'est quelqu'un qui agit avec tact, qui sait se soumettre tout en restant ferme dans ses positions. On a aussi le bel exemple de ses amis dans l'histoire de la fournaise ardente, qui sont restés paisibles et confiants en sachant que Dieu est Dieu et que nous n'avons pas à contester ses décisions parce qu'il ne nous abandonnera jamais au sein de la détresse. Je rappelle aussi le style apocalyptique qui présente deux périodes de l'histoire. Tout d'abord l'Empire babylonien. Et le temps de l'exil, qui est un châtiment de Dieu à cause des péchés du peuple, c'est ce que nous avons vu dans le premier enregistrement. Dans la deuxième partie, il s'agit de l'histoire universelle après cet empire, puisque l'histoire de Babylone va servir de modèle à l'histoire de tous les royaumes du monde. Dieu conduit les événements en maître absolu, et nous voyons les attitudes de tout dirigeant dans ce monde. Reconnaître la souveraineté de Dieu ou ne pas tenir compte de la révélation divine. Les chapitres que nous allons voir sont un peu compliqués, donc je ferai deux enregistrements bien distincts pour que vous preniez le temps déjà de lire les textes et pour pouvoir aussi aller voir un peu dans l'Apocalypse parce que nous allons aborder des thèmes et des passages qui sont beaucoup référencés dans l'Apocalypse. Donc nous allons commencer la deuxième partie qui s'intitule L'histoire mondiale et sa fin. Et je vous rappelle vraiment l'importance de lire ces chapitres avant. Chapitre 6, 7, 8 au moins pour aujourd'hui. L'histoire recommence avec l'avènement de nouvel empire. Et à partir de là, il s'agit de l'histoire mondiale en transposant à l'échelle universelle ce que Daniel a montré de Babylone. On voit le thème de la succession des empires. Il y aura une fin du monde comme il y a eu une fin de l'empire babylonien. Et cette seconde partie voit le mal, l'opposition au peuple de Dieu s'intensifier. Plus on approche des derniers jours, plus les temps deviennent difficiles pour le peuple de Dieu. On n'a pas de date de fin de la période, puisque en fait celle-ci va jusqu'à la fin du monde, mais à la place, il y a une indication disant que la période va se prolonger. Je vous rappelle que le chapitre 6, c'est le pendant araméen du chapitre 1 en hébreu. Daniel accepte de servir le nouveau souverain, mais il refuse de se plier à l'une de ses décisions. Il montre ainsi qu'il limite son allégeance à Darius, car il est soumis à Dieu. Qui était Darius le Mède? À partir de moins 610 ou moins 605, les Babyloniens ont été battus par Cyrus le Grand. Babylone est prise, et il s'agit de ce Cyrus qui a conquis tout le Moyen-Orient. Il était Mède par sa mère et Perse par son père. C'est pour cela qu'il a deux noms, Cyrus et Darius. Et quand il est dit Cyrus et Darius en hébreu, la conjonction signifie à savoir. Il s'agit en fait de la même personne. Le chapitre 6 concerne une histoire bien connue, Daniel dans la fosse aux lions, que l'on raconte beaucoup aux enfants. On voit souvent des dessins qui illustrent un peu cet événement. Daniel a été nommé gouverneur d'une région, c'était la fonction des satrapes. Il s'avère qu'il est plus doué que les autres, qui par jalousie vont trouver un motif d'accusation en relation avec la loi de son Dieu. Ils encouragent le roi à faire publier un édit royal interdisant pendant 30 jours de prier un dieu ou un homme autre que le roi. Daniel prie dans sa chambre à Babylone, fenêtre ouverte, en direction de Jérusalem, trois fois par jour. On s'aperçoit que le roi divinisé est en fait manipulé par sa cour. Il est prisonnier lui-même de sa loi stupide. En temps normal, il aurait pu protéger Daniel. Mais à partir du moment où il a voulu se prendre pour Dieu, il perd son pouvoir et va être obligé de s'en remettre à Dieu. Et le roi, donc, qui s'est piégé lui-même, ne peut pas manger ni se divertir. Il perd le sommeil et le lendemain, on voit au verset 20, que le roi angoissé appelle Daniel et lui demande « Ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et on apprend que Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Et les hommes qui avaient conspiré contre Daniel sont jetés dans la fosse et dévorés par les lions avec leurs femmes et leurs enfants. On est tellement habitué à lire ce récit qu'on oublie peut-être le caractère très violent de l'événement. Et il faut essayer d'imaginer la scène. En tout cas, il fallait avoir du cran comme Daniel pour braver l'ordre du roi, parce qu'être jeté dans la fosse aux lions, c'était quand même un acte vraiment courageux d'accepter d'y aller. Daniel semble au contraire plus libre que le roi, car lui, rien ne peut l'empêcher d'agir selon sa volonté et sa fidélité à Dieu. Daniel nous enseigne que la crainte de Dieu délivre de la peur des hommes. On aurait pu croire que Dieu était vaincu, impuissant, du fait qu'Israël soit en exil. Au contraire, l'exil lui donne l'occasion de manifester ailleurs qu'en Israël aux païens. Dieu est présent partout, dans la fournaise ardente, dans la fosse aux lions, il agit. Et quand Israël est infidèle, Dieu se fait connaître aux païens. Je vais simplement lire la fin du chapitre 6 à partir du verset 27, ce que dira le roi. Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté durera à toujours. Il délivre et il sauve, et il accomplit des prodiges, des signes extraordinaires, dans le ciel et sur terre, car il a délivré Daniel de la griffe des lions. Et le chapitre se termine ainsi. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous celui de Cyrus le Perse. Ainsi Daniel, pour avoir obéi au seul vrai Dieu, est béni et a une vie prospère. L'exil anticipe donc sur l'ère où l'action de Dieu ne se confinera plus à l'intérieur des frontières d'Israël. On peut se poser la question, de quel statut la foi d'Israël jouit-elle dans l'Empire perse? C'est un empire qui va s'étendre de l'Indus jusqu'au Nil. Ce sera un empire plurilingue qui reconnaît trois langues officielles, le persan, l'élamite, l'araméen, et il y avait des secrétaires pour toutes les langues pratiquées. Les dirigeants n'auront pas une politique d'oppression de peuples soumis, ni d'intolérance vis-à-vis des cultes nationaux. Cyrus a bien compris qu'un régime de terreur ne fait qu'attiser la révolte, ce qui épuise en fait les ressources d'un régime. Il utilise donc tous les déportés, y compris les juifs, et les aide à retrouver leur patrie et à y restaurer ce qu'il faut faire avec l'aide du trésor public, tous les sanctuaires, et à rétablir leur culte. Et les Juifs en profiteront pleinement. On voit ça dès le premier chapitre du livre d'Esdras. Il y a eu des rois moins généreux, comme le montre le livre d'Esther, où Xerxès est prêt à humilier publiquement son épouse Vashti et a signé un décret autorisant un pogrom qui aurait pu décimer les Juifs de l'Empire. On trouve ça au chapitre 3 du livre d'Esther. Il faut souligner que dans le deuxième décret de Darius, lorsqu'il fait l'éloge du Dieu d'Israël dans les versets 27 et 28 que j'ai lus, il y a quand même un reste de paganisme. Le Créateur n'est en fait reconnu que comme un Dieu provisoirement supérieur aux autres. Donc le statut du judaïsme dans l'Empire, favorable à cette époque, reste tout de même précaire. Les Juifs sont à la merci des caprices des rois, mal disposés ou tout simplement décadents. Maintenant, donc, le chapitre 7, qu'on pourrait intituler « Les quatre bêtes » et le « Comme un fils d'homme ». Ce chapitre 7 va correspondre au chapitre 2. Nous avons étudié au chapitre 2 le rêve de la statue par Nebuchadnezzar. Eh bien, le livre de Daniel consacre trois chapitres sur les grands empires qui se sont succédés. Et le deuxième et le septième chapitre se correspondent, parce que c'est l'histoire du monde, c'est la fin de la partie en araméen. Tout à l'heure, le chapitre 8 que nous verrons correspond à certains éléments du chapitre 7 en hébreu. Ça intéresse Israël et Jérusalem. Concernant les dates, certains pensent qu'il s'agit de l'an -552 ou -551 et d'autres pensent qu'il s'agit de -550 ou -549. C'est quand même des dates assez proches. On est à la première année du règne de Balthazar et on voit que Daniel a vécu sous le règne de plusieurs rois. À ce moment-là, il est dans la cinquantaine. On peut se poser aussi la question, quel rapport donc entre cette vision et le rêve de la statue de Nebuchadnezzar du chapitre 2. En fait, c'est la même perspective politique du développement politique futur du Proche-Orient. C'est une pratique courante chez les auteurs bibliques de répéter un thème ou un épisode, ce qui permet en fait d'attirer l'attention sur une portée exceptionnelle ou sur une décision divine définitivement arrêtée. Daniel va nous offrir un nouvel éclairage sur l'évolution politique en cours. Et à la place d'une statue inoffensive, on a affaire maintenant à des bêtes qui sont dévorées par leur appétit de pouvoir, qui se livrent à des actes de cruauté et inspirent la peur. Le portrait du pouvoir, en particulier des civilisations terrestres, est en général bien peu flatteur pour l'humanité. Donc je vous encourage à bien lire ce chapitre 7 avant d'écouter peut-être ce que je vais dire. Vous pouvez mettre sur pause. C'est un chapitre rempli de détails qu'il est important de commenter. Donc Daniel fait un rêve. La mer est agitée et 80 et 4 bêtes surgissent. Et cette vision va laisser Daniel très angoissé, rempli d'effroi. Et l'ange lui en donne l'interprétation. Nous avons un avantage sur Daniel, c'est que nous connaissons l'histoire des peuples qui s'est déroulée par la suite et qui nous donne l'explication des événements. Mais il reste encore des événements à venir. Ce qu'il faut retirer de ces visions, c'est qu'elles ne sont pas là pour nous angoisser ni nous effrayer, mais au contraire pour nous encourager, car Christ est celui qui nous apportera la victoire finale. Donc au chapitre 7, verset 2, il est mentionné la mer. Dans la mythologie cananéenne, la mer, c'est le chaos opposé au Dieu créateur qui va ordonner le monde. C'est aussi là que réside le monstre qui représente la puissance du mal, qu'on appelle aussi le Léviathan. Sous l'action des quatre vents, quatre bêtes surgissent de la mer. Elles représentent quatre rois ou quatre empires. Les rois sont les représentants de leur royaume. On peut donc mettre en parallèle les quatre bêtes et les quatre métaux du chapitre 2. Les métaux avaient une valeur décroissante. Il s'agissait du plus noble au moins noble. Ici, on voit la monstruosité croissante des quatre bêtes. Un lion avec des ailes d'aigle, un ours, un léopard, une bête effrayante avec 10 cornes et une petite corne. Ensuite, on a le lion qui a été l'emblème des rois chaldéens, après avoir été celui des rois assyriens. Il s'agit donc de Nebuchadnezzar, qui, à cause de son orgueil, a été chassé du milieu des hommes et s'est mis à manger de l'herbe avec cette maladie mentale dont j'ai parlé dans la première partie. Et on se souvient que la raison lui a été rendue quand il a reconnu que le Très-Haut domine sur la royauté humaine. C'est-à-dire que c'est le don d'un cœur d'homme, dans la vision du chapitre 7, le cœur étant le siège, entre autres, de l'intelligence. Les royaumes de ce monde apparaissent bestiaux. Le premier a commencé comme les autres, c'est-à-dire l'orgueil de Nebuchadnezzar. Il a eu un caractère plus humain quand il a reconnu que Dieu était souverain, qu'il s'est humilié. On lui a arraché ses ailes d'aigle. L'humanisation implique l'élimination de toute prétention de voler vers les cieux, d'où cette image d'arracher les ailes. Cette histoire nous permet de comprendre l'image des bêtes pour les empires. L'homme n'est véritablement humain que lorsqu'il reste à sa place, reconnaissant l'autorité et la souveraineté de Dieu. Par contre, lorsqu'il se prend pour Dieu ou se fait passer pour tel, il fait la bête. Et dans la vision de Daniel, les bêtes représentent donc l'homme qui prend la place de Dieu, en particulier les rois des grands empires de ce monde qui revendiquent une autorité plus grande que celle qui leur revient, qui aspirent au pouvoir suprême, au contrôle du monde entier. Ces bêtes représentent l'homme défiguré par son orgueil et l'ambition démesurée. Et c'était Pascal qui disait, le philosophe Pascal disait que l'homme n'est ni ange ni bête, mais quand il veut faire l'ange, l'homme n'est qu'une bête. Donc, celui qui ne sait pas demeurer dans la juste mesure fait la bête. Ces rois non seulement ne reconnaissent pas la majesté divine, mais ils s'opposent au Seigneur, contestent sa souveraineté pour se l'approprier. Ils persécutent alors de façon plus ou moins dure le peuple de Dieu, qui par fidélité au Seigneur refuse de les servir, au-delà de certaines limites, au-delà de la juste mesure. Comme ça a été le cas de Daniel et de ses trois amis. Les deuxième et troisième bêtes sont peu décrites, parce qu'on va les retrouver au chapitre 8. On a l'ours dressé sur un côté, trois côtes dans la gueule, et à qui on dit de manger beaucoup de chair. Puis il y a le léopard à quatre têtes, quatre ailes sur le dos. Il a un caractère très bestial. C'est l'annonce d'une dégradation après l'Empire babylonien, à mettre en parallèle avec la valeur décroissante des métaux du chapitre 2. Donc. La deuxième bête, elle représente l'Empire qui a suivi l'Empire babylonien. C'est donc l'Empire médo-perse. L'ours se dresse sur un côté, peut-être pour indiquer que l'une des deux composantes de cet empire, le peuple perse, allait avoir la prédominance grâce à ses compétences de bonne gestion de l'administration. L'ours dévore beaucoup de chair. Sans doute, est-ce là une prédiction de l'immense étendue des conquêtes de cet empire ? Les Perses ont étendu leur territoire jusqu'en Inde. Le royaume perse, c'est l'Iran d'aujourd'hui, depuis 1934, où on parle encore aux Perses, où on célèbre encore les fêtes religieuses zoroastriennes, en Iran et en Inde par exemple. Et dans cette religion, on considère le feu comme sacré. C'est une religion monothéiste qui est pratiquée par environ 190 000 fidèles. Le troisième animal, c'est un léopard. Et lui, il représente l'Empire grec. Il a sur le dos quatre ailes d'oiseau et possède quatre têtes. L'Empire grec fut en effet fondé par Alexandre le Grand sur les ruines de l'Empire perse vaincu. Mais Alexandre est décédé prématurément et ses quatre de ses généraux, les Diadoques, représentés ici par les quatre ailes et les quatre têtes, qui vont se partager le nouvel empire. Donc quand on connaît vraiment l'histoire, on peut admirer la précision de cette vision, et c'est extraordinaire que toutes ces choses aient été annoncées autant de siècles à l'avance. Cela nous confirme que vraiment Dieu est le maître de l'histoire, et c'est rassurant, parce que tout ce qui arrive n'arrive pas au hasard. Dieu maîtrise tout. Il tient chaque événement entre ses mains. L'histoire a un sens, et c'est Dieu qui dirige ce sens. Ensuite, il y a une quatrième bête qui ne représente à aucun animal connu. Le quatrième animal est d'un genre très différent et bien plus terrible. Il représente l'empire qui a suivi l'empire grec et il s'agit de l'empire romain. Il possède 10 cornes qui représentent 10 rois. 10, c'est un symbole politico-militaire. Et puis, il y a une autre corne qui lui pousse. C'est une petite corne, mais elle fait tomber les 3 cornes précédentes. Et elle a des yeux humains, une bouche arrogante. Elle représente elle aussi un ultime roi qui va en évincer 3 autres. Elle proférera des paroles de révolte et d'injures contre le Très-Haut. Elle fera la guerre aux saints, les vaincra. Elle va aussi persécuter le peuple de Dieu pendant 3 ans et demi. Et à la fin du livre, on apprend que la force du peuple saint sera entièrement brisée au bout de ces 3 ans et demi. On peut donc noter le caractère assez terrifiant de cette bête. Elle est vraiment très puissante puisqu'elle a 10 cornes et le chiffre 10 représente la force. Elle a des dents de fer avec lesquelles elle broie tout. Entre les 10 cornes sort la petite corne et 3 des 10 cornes sont arrachées devant elle. Et sur la petite corne, il y a des yeux humains et une bouche qui dit des choses monstrueuses. Donc la bête a des traits humains. Cette petite corne, c'est l'image de la force qui enfonce et défonce tout. C'est l'arme offensive de l'animal dans laquelle se concentre toute sa force de frappe. Et en même temps, puisqu'elle fait la pointe de l'animal, c'est la concentration de tout ce que l'animal représente et qui vient au bout à la fin du 4e empire après les 10 rois qui doivent régner sur cet empire. Une personne et un roi récapitulera en elle-même tout ce que la bête représente. L'image de la petite corne suggère l'intensification du pouvoir mauvais du royaume à la fin de son existence. L'incarnation de la bête en une personne qui concentrera en elle tout l'être de la bête et plusieurs points ce qu'il s'agit de l'Antichrist, ce personnage qui doit surgir à la fin des temps et porter le mal à son apogée. L'homme le plus bestial conserve des traits humains parce qu'il est image de Dieu et qu'il le reste. Mais ces traits rendent l'animal encore plus monstrueux et horrible car il y a des assemblages incompatibles, un mélange d'humain et de bestial. Les yeux et la bouche évoquent l'intelligence humaine, mais elles sont au service du mal. L'intelligence de cette bête la rend encore plus terrifiante qu'une simple bête. On sait que les animaux créés par Dieu sont beaux, alors que la troisième bête était difforme avec des ailes et quatre têtes, eh bien la quatrième bête est hideuse et concentre tout le mauvais de l'humanité. La violence, la brutalité, elle porte le mal à son apogée. C'est pourquoi Dieu ne peut plus intervenir. Il nous faut faire un petit saut en Apocalypse chapitre 12, où on a une seule bête qui monte de la mer, mais celle-ci a sept têtes qui peuvent correspondre à la pluralité des quatre animaux de Daniel. Cette bête reprend aussi les traits des quatre animaux de Daniel. Elle a une gueule de lion, des pattes d'ours, un corps de léopard. Elle a 10 cornes qui, comme celle du quatrième animal de Daniel, représentent 10 rois. Et comme la petite corne qui vient après les 10 chez Daniel, la bête que voit Jean dans l'Apocalypse a une gueule qui profère des paroles arrogantes. Elle fait la guerre aux saints, c'est-à-dire les deux témoins, et remporte la victoire sur eux. Il faut regarder donc Apocalypse 13, verset 7, qui est une citation de Daniel 7, 21 et d'Apocalypse 11, verset 7. Cette bête agit pendant 42 mois, les 3 ans et demi de Daniel, à la fin desquels elle vint et tue les deux témoins. Donc je résume un peu la vision avec l'explication chez Daniel en rapport avec ce qu'on trouve dans l'Apocalypse. Daniel 7, donc il y a 4 bêtes. L'explication de cette vision, c'est 4 rois ou empires. Et dans l'Apocalypse, on a une bête à 7 têtes. Chez Daniel, le lion avec des ailes d'aigle représente donc Nebuchadnezzar, c'est-à-dire l'empire babylonien. Et dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a une gueule de lion. Daniel nous parle d'un ours qui se dresse sur un côté. Il représente donc l'empire médo-perse, avec une prédominance pour les Perses. Et on retrouve ses pattes d'ours en Apocalypse. Daniel nous parle d'un léopard avec 4 ailes plus 4 têtes. C'est la rapidité extrême qui évoque l'empire d'Alexandre le Grand et les 4 généraux d'Alexandre. On retrouve donc le corps du léopard dans l'Apocalypse. Daniel nous mentionne une bête terrible avec 10 cornes qui représente l'empire romain, 10 rois. Et l'Apocalypse nous montre un monstre épouvantable avec 10 cornes et 10 rois. Chez Daniel, la petite corne qui est mentionnée nous montre donc que 3 cornes tombent devant elle. Elle a une bouche arrogante, elle agit 3 ans et demi, elle fait la guerre aux saints et la gagne. Et au bout des 3 ans et demi, la force du peuple saint est entièrement brisée. Alors, il y aura donc un dernier roi, l'Antichrist. Antiochus a été une préfiguration de ce personnage. Et il y a plusieurs interprétations parmi les évangéliques. On a pensé à un moment donné que le pape avec le chiffre 666 correspondait bien aux lettres romaines, puisque les lettres romaines sont des chiffres, mais c'est plus rare aujourd'hui de rester dans cette interprétation. Et dans l'Apocalypse, on voit que la bête a une gueule arrogante, qu'elle agit pendant 42 mois, elle fait la guerre aux saints et l'emporte, et à la fin des 1260 jours, elle vint et tue les deux témoins. Dans l'Apocalypse, le fait qu'il n'y ait qu'une seule bête donne l'idée d'une certaine unité. En même temps, les 7 têtes indiquent une pluralité. Ces têtes représentent des rois et correspondent ainsi aux animaux pluriels de Daniel. Et avec ces 7 têtes, les traits de chacun des 4 animaux de la vision de Daniel, la bête unique de l'Apocalypse, elle récapitule les 4 empires qui se succèdent chez Daniel. C'est l'ensemble de ces empires. Et en même temps, le chiffre 7 symbolise la totalité et indique que la bête n'englobe pas seulement les 4 empires de la vision de Daniel, mais la totalité des empires de ce monde. Une seule bête, cela signifie que c'est le même principe, la même puissance qui se cache derrière les empires qui tentent de prendre la place de Dieu ou qui persécutent son peuple. La puissance du dragon, de qui les empires tiennent leur pouvoir, c'est lui qui se cache derrière ces états totalitaires et dictatoriaux. Il agit au travers de ses régimes, manipulant les hommes qui sont à leur tête. À l'époque de Jean, on pouvait facilement identifier les sept têtes aux empires qui avaient été persécutés ou dominés par le peuple de Dieu depuis, qui avaient dominé le peuple de Dieu depuis sa naissance. En effet, Jean dira en Apocalypse 17:10 que de ces sept rois, cinq appartiennent au passé, un au présent et un à l'avenir. Et si on prend en compte non seulement les empires du livre de Daniel, mais aussi les grands royaumes connus de l'Ancien Testament qui les ont précédés, on peut avoir l'Égypte, la Syrie, l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec, le Rome, donc, qui était l'Empire du présent. Quant au septième, on ne l'identifie pas encore. Jean parle en Apocalypse 17 d'un huitième roi qui identifiait la bête. Et ce huitième roi concentre en sa personne tout ce que la bête représente. C'est une incarnation de la bête elle-même, une manifestation de la bête dans tous ses aspects. On peut penser à la petite corne de Daniel, ce serait l'Antichrist. Mais puisque le chiffre 7 représente la totalité, c'est qu'au-delà de tous les empires mentionnés, ce sont tous les empires de l'histoire humaine qui sont représentés par la bête. Tous ces empires qui prétendent prendre la place de Dieu ou qui persécutent son peuple. Et aujourd'hui encore, on peut dire, il y en a qui sont tombés. On pense au Troisième Reich, à l'URSS. D'autres existent encore, comme la Corée du Nord. Et d'autres ne sont pas encore venus et nous ne savons pas ce qui viendra. Derrière tous ces empires, ces royaumes, il y a un même principe. Une même puissance qui se manifestera pleinement à la fin quand viendra l'Antichrist. Mais elle est déjà à l'œuvre du temps de Jean et du nôtre, au travers des grands empires dominateurs de ce monde. Et c'est ce que dit Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 2. L'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, doit venir à la fin, mais le mystère de l'iniquité est à l'œuvre dès à présent. Et Jean affirme la même chose dans 1 Jean 2, verset 18. Un antichrist doit venir, il y a maintenant plusieurs antichrists. Il dira aussi, de plus, les faux docteurs sont animés par l'esprit de l'antichrist. Donc la bête, c'est l'esprit de l'antichrist. Elle représente le mystère de l'iniquité qui se manifeste déjà en notre temps à travers des dictatures, des régimes totalitaires ou des empires qui se succèdent au cours de l'histoire. La bête, l'esprit de l'antichrist, s'incarnera à la fin en personne de l'antichrist et portera son comble et son summum dans son action, sa rébellion contre Dieu, son opposition au peuple de Dieu et son œuvre de séduction des nations. Dans la prophétie de Daniel, c'est sur le quatrième animal que nous identifions l'Empire romain que surgit la petite corne à laquelle nous voyons l'Antichrist. Ceci appelle un éclaircissement. Le quatrième empire a un caractère final dans la mesure où c'est à cette époque que vient le comme un fils d'homme et que le jugement s'exerce et que la domination est ôtée aux empires humains. Effectivement, cela s'est produit sous l'Empire romain. Alors que Rome dominait le monde, Jésus est venu et le prince de ce monde a été vaincu à la croix. Il a été jeté dehors. Et la bête, elle a perdu sa domination. Et le royaume de Dieu est présenté dans le Nouveau Testament comme une réalité désormais présente. Et c'est peut-être dans ce sens que Jean pourrait écrire en Apocalypse 17, verset 8, « La bête n'est plus ». Alors ça ne signifie pas que ce soit terminé. Daniel, dans sa vision, indiquait que lorsque la quatrième bête est tuée, les autres bêtes sont dépouillées de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur est accordée pendant un certain temps. Ainsi, la bête a été vaincue à la croix, mais les royaumes de ce monde subsistent et la manifestent encore à l'époque où Jean reçoit ses visions. Ainsi que dans le temps présent, nous attendons encore, nous, la royauté, la souveraineté, la grandeur de tous les royaumes qui existent sous les cieux, qui soient donnés au peuple des saints du Très-Haut, et que tous les dominateurs servent ce dernier et lui obéissent. En tenant compte de cela, on peut donc maintenant considérer en détail le texte d'Apocalypse 13. Si vous pouviez lire les chapitres 12 et 13 d'Apocalypse, pour les détails que nous allons voir, ça vous parlerait mieux. On a donc la bête qui monte de la mer, qui est l'antre du dragon. Elle est envoyée par le dragon. Plus loin, en Apocalypse 17, on verra que les grandes eaux sont interprétées par Jean comme le symbole des nations. La bête est donc issue des nations, tandis que Jésus-Christ est issu d'Israël. La bête représente les empires de ce monde, l'état politique qui se fait Dieu, comme nous l'avons montré. Avec ses 10 cornes, ses 7 têtes et ses 10 diadèmes, la bête ressemble à son père le dragon. Il y a cependant une différence. Elle a les diadèmes sur ses cornes, alors que le dragon les avait sur ses têtes. Ce qui entraîne une différence quant au nombre de ses diadèmes. Les cornes évoquent la force au service du pouvoir politique, la force qui assure la domination de l'empire sur les royaumes qui lui sont assujettis. Les cornes symbolisent aussi des rois vassaux de l'empire. Les diadèmes sont le signe du pouvoir politique. Et les noms blasphématoires inscrits sur les têtes de la bête sont sans doute une allusion au titre revendiqué par certains des rois des empires de ce monde. Au IIe siècle, par exemple, Antiochus s'est donné le nom d'Épiphane pour se présenter comme la manifestation d'un dieu. Au Ier siècle, les empereurs romains se sont progressivement attribués des titres divins. En particulier, l'empereur Domitien, qui règne au moment où Jean écrit l'Apocalypse et qui se fait appeler Seigneur et Dieu. On peut penser également à Louis XIV, qui s'est fait appeler le Roi Soleil et qui a déclaré « L'État, c'est moi ». En plus des détails du membre du corps qui rappelle la vision de Daniel 7, donc ours, léopard et lion, ses traits évoquent la férocité de la bête, à l'image de ces animaux sauvages qui attaquent leur proie, qui les déchirent et les dévorent sans qu'elles puissent résister. Les empires de ce monde oppriment les peuples qui se sont assujettis et matent leur révolte avec sévérité. Et Jean va nous révéler d'où la bête tire son pouvoir politique. C'est écrit en Apocalypse 13, verset 2, que le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Le dragon fait concurrence à Dieu, qui a donné tout pouvoir à Jésus-Christ. Mais le pouvoir de Satan est illusoire, car le prince de ce monde a été jeté dehors. Il est vaincu et a été précipité du ciel. Derrière l'état politique se cache donc le dragon, qui en tire les ficelles. Satan pervertit les structures politiques en les détournant de leurs propres fins. Lorsqu'un dirigeant politique ou un État sort de ses limites, lorsqu'il prétend prendre la place de Dieu, il fait le jeu de Satan et devient diabolique. Lorsqu'il opprime le peuple pour en faire ses esclaves, lorsqu'il persécute le peuple de Dieu qui résiste, il devient bestial. Il faut donc nous soumettre aux autorités instaurées par Dieu, tant qu'elles tiennent leur rôle. Mais dès qu'elles outrepassent leur rôle, qu'elles s'opposent à Dieu, qu'elles font le jeu de Satan, alors il faut leur résister. En Apocalypse 13, la bête fait semblant de vaincre la mort. Là, c'est une caricature de la mort et de la résurrection de Jésus. La bête a l'air anéantie, mais elle est toujours relevée. En effet, l'histoire nous montre qu'un empire tombe en ruine, un autre s'élève sur ses ruines, comme les empires se sont succédés. Il y a eu les Assyriens, les Babyloniens, les Mèdes et Perses, les Grecs, les Romains. Et aujourd'hui encore, on peut observer qu'une dictature tombe et une autre surgit ailleurs. Il y a eu Jules César, Louis XIV, Hitler, Staline, Saddam Hussein et puis d'autres encore. C'est le principe de l'État fort qui veut tout englober, tout contrôler et qui réussit pendant un certain temps. Ça a toujours existé. L'impression de force et de puissance qu'il donne attire l'admiration des foules. Et on sait par exemple quel envoûtement Hitler exerçait sur les foules. La bête est adorée, divinisée. Là, ça nous fait penser au culte de l'empereur. Une formule intéressante en Apocalypse 13, verset 4. Qui est semblable à la bête ? Parce que c'est une parodie du langage et de l'adoration qui reviennent à Dieu seul. Qui est semblable à toi ? Par exemple, en Exode 15, verset 11, il y a un cantique de délivrance après avoir traversé la mer à sec. Et dans ce cantique, il est dit « Qui parmi les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi ?» Le psaume 89, versets 7 et 9, dit aussi « Qui est comparable à l'Éternel ?» Dans Ésaïe, chapitre 40, versets 25 et suivants, on peut lire « À qui voudriez-vous me comparer? Qui serait mon égal ?» Il faut lire concernant la grandeur de Dieu. Et Michée 7, verset 18, « Quel est le Dieu semblable à toi ?» Une autre expression aussi, « Qui peut la combattre ?» Ce langage convient à Dieu seul. « Qui est puissant comme toi ?» dira le psaume 89. « Qui parmi tous les dieux, ô éternel, est semblable à toi ?» Alors qu'il veut faire l'ange ou prendre la place de Dieu, l'homme fait la bête, une bête hideuse, animée par l'esprit de l'Antichrist. Asservi au dragon qui la manipule, car sa puissance qui la tient de Satan, c'est le père du mensonge, et ce n'est que de la poudre jetée aux yeux. Adam, qui croyait devenir comme Dieu, est tombé au pouvoir de Satan. Et c'est ce qui arrive à tout homme ou tout état qui revendique l'autorité suprême. Cela veut dire qu'en servant, en adorant la bête, c'est Satan que l'on sert, qu'on adore. Et c'est de la bête, justement, que Satan tire sa pensée, son idéologie, sa force, son pouvoir. Elle profète des paroles arrogantes, blasphématoires. C'est une allusion au titre que revendiquait l'empereur. Pour Jean et ses lecteurs, c'était une réalité bien présente. Comme pour les chrétiens persécutés aujourd'hui, sans doute. Deux fois, il est dit, et lui fut donné. C'est-à-dire que le Seigneur siège en maître sur son trône et regarde cela du haut du ciel, avant d'intervenir quand il le jugera bon. Dieu est souverain, c'est lui qui contrôle tout et qui tient les rênes des événements. La bête ne peut agir que pendant le temps que Dieu lui permet. 42 mois, c'est-à-dire une action très limitée dans le temps. Et même si ça paraît long, c'est un fait très limité. Les blasphèmes proférés par la bête sont dirigés contre Dieu, contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent. Apocalypse 13, verset 7, donc est une citation de Daniel 7, verset 21. Et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. La petite corne qui a poussé au quatrième animal, donc. Dans l'Empire romain de l'époque, l'Empire romain, on pouvait exiger un signe de fidélité, de loyauté à l'empereur, la participation au culte qui lui était vouée. L'empereur demandait qu'on prête serment par son génie, et les croyants qui refusaient de le faire étaient persécutés et mis à mort. Il y a donc deux camps. Ou choisir le camp des saints, c'est-à-dire accepter le coup en tant que persécution, se défendre par l'épée, c'est pas la solution. Et on rejoint là ce que Jésus a dit à Pierre qui a dégainé son épée quand on est venu arrêter son maître. Et puis il y a la bête qui monte de la terre et qui singe le Saint-Esprit. C'est un anti-Élie qui est d'ailleurs appelé le faux prophète. Alors je voudrais faire ici une petite parenthèse sur les religions orientales. Par diverses techniques, je pense au yoga, à la méditation transcendantale, l'homme prétend acquérir une maîtrise parfaite de lui-même et des forces qui sont à l'œuvre dans le monde qui l'entoure. Il cherche ainsi à devenir son propre Dieu. Ça, c'est un exemple de la fausse religion. L'image de la bête, c'est encore tous les moyens de propagande que l'État utilise pour assurer sa domination et amener les peuples à lui rendre un quasi-culte. C'est l'image de la bête qui s'anime quand Hitler prend la parole et envoûte un peuple entier. La propagande marxiste a permis à la bête de dominer sur une partie importante du monde aussi. Et on sait quel rôle joue l'image placardée dans un bureau, brandie dans une manifestation ou érigée en statue dans le culte d'un dictateur comme actuellement en Corée du Nord. C'est encore la bête qui se donne un spectacle au travers des politiques qui ont des discours séducteurs, au débat télévisé lors des élections importantes et qu'on appelle d'ailleurs de grande messe. L'image de la bête, c'est aussi les discours d'une certaine caste intellectuelle pour qu'il y ait une pensée unique relayée par les médias. Par exemple, l'éducation nationale qui forme la mentalité des gens en accord avec ce qui est politiquement correct. Il suffit de regarder les programmes imposés qui sont enseignés aux enfants pour s'en rendre compte. La télé, enfin, est un formidable moyen de façonner des mentalités, de manipuler. Par l'image, on ne montre que certains aspects de l'événement. On privilégie le sensationnel et ça évite tout effort d'analyse, de raisonnement. Parce qu'ainsi, on va cultiver l'émotionnel, on nous bourre le crâne avec la pensée humaniste et c'est l'homme qui est le point de référence. Il se réalise par sa science, sa technologie. Il est son propre Dieu. Et le chemin de salut dans cette religion a souvent été la politique. Le sauveur, c'est l'État, et le parti politique ou le syndicat. La bête promet la relance économique. La publicité, c'est le moyen de propagande qui nous réduit à l'état de bête consommatrice. Quelqu'un a dit « Le dieu de la France, c'est le pouvoir d'achat, et le fils de publicité est son prophète. » Donc, on divinise le système. Posséder plus, consommer plus, produire plus. On devient esclave du marché et on se prosterne finalement devant un système. Du temps de Daniel, comme au XXIe siècle, on peut réaliser que la deuxième bête agit encore. Mais revenons maintenant à Daniel avec la vision du Fils de l'homme. Dans Daniel 7, versets 9 à 10, on voit que l'Ancien des Jours s'assied sur le trône. Les détails de blancheur sont signes de pureté. Ces détails présentent une scène de jugement. À la fin du verset 10, les livres sont ouverts et ils sont sans doute le catalogue des actions des hommes. Ils contiennent des dossiers complets, fiables, des documents de base d'un jugement équitable, mais terrible. Le « comme un fils d'homme » s'approche de l'Ancien des Jours. Il est d'origine céleste. La nuée est souvent le moyen de transport du Seigneur et accompagne bien souvent aussi les théophanies. Jésus a compris le texte comme indiquant que le « comme un fils d'homme » viendrait du ciel. Ça nous renvoie à la vision d'Ézéchiel, chapitre 1, où la nuée est présente. La vision de Daniel semble se dédoubler. Il y a deux personnages distincts et en chacun les traits du Seigneur décrits par Ézéchiel. Apocalypse 1 montre qu'on réunit, Jean va réunir les traits des deux personnages dans la vision du Christ ressuscité. Dans l'Apocalypse au chapitre 1, on a d'ailleurs un rappel de Daniel 7 et de Daniel 10 avec l'homme vêtu de lin. Vous pouvez toujours lire ce premier chapitre qui montre la beauté contrastant avec la laideur, la bestialité de la bête, du chapitre 13 de l'Apocalypse. Son humanité tranche sur la bestialité du monde. Le roi, c'est un seul homme qui a véritablement rempli son rôle d'homme, c'est-à-dire glorifier le Dieu à l'image duquel l'homme a été créé. Il est lui véritablement homme au plein sens biblique. Il porte une longue robe. C'est une personne de haut rang, un vêtement simple qui tranche avec le manteau de pourpre qui aimait vêtir les rois en Orient. La majesté et l'autorité ne se repèrent pas par un vêtement luxueux, mais par le caractère intérieur, par la noblesse de la personne. Ce personnage a des cheveux blancs, ce qui nous rappelle l'âge représentant la sagesse aussi. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Rien ne lui est caché, son jugement sera juste. Ses pieds sont comme du bronze. Et bien là aussi, le roi n'a pas les pieds fragiles comme la statue de Daniel, qui représente les royaumes de ce monde. Le roi va pouvoir écraser ses ennemis sous ses pieds. Et sa voix, enfin, est comme le bruit des grandes eaux. Sa voix couvre toute autre voix. Il prononce son jugement, et c'est ça qui prévaut. Et pour finir, il tient 7 étoiles. Il est le chef des églises. Pour revenir donc au verset de Daniel 7, verset 13, « Je vis venir quelqu'un comme un fils d'homme », c'est le verset le plus cité dans le Nouveau Testament. Jésus se désigne lui-même 69 fois dans les évangiles en tant que fils d'homme. Ézéchiel utilisait cette expression, mais c'était un sémitisme qui signifiait un homme tout simplement. Par contre, quand Jésus emploie cette expression, il affirme son statut divin de fils du Père. Et Jean, dans l'Apocalypse, confirme l'importance de Daniel pour élaborer la pensée de la Nouvelle Alliance. Il reprend Daniel 7, il enrichit la vision du Seigneur ressuscité, qui doit beaucoup d'ailleurs à la doctrine de la résurrection, formulée en Daniel 12, et dont les termes employés renvoient directement à la vision de l'homme vêtu de lin. L'ancien des jours, c'est le Seigneur, c'est Yahvé tout simplement. On a ce phénomène courant dans l'Ancien Testament. Le Seigneur apparaît en compagnie d'un autre personnage, souvent appelé l'ange du Seigneur. Cet ange du Seigneur est distinct de Yahvé, mais en même temps arrive à se confondre avec lui. Et Jean, dans l'Apocalypse, les fait se confondre. On retrouve les caractéristiques des théophanies, c'est-à-dire le métal, la voix, les grandes eaux, le feu, l'éclat du soleil, comme un buisson ardent. Ensuite, au verset 14, chapitre 7 de Daniel, il reçoit la domination universelle. Son règne est éternel. Il a un caractère pleinement humain. Il est l'homme véritable, pleinement humain en opposition avec les bêtes, les hommes bestiaux, tyranniques et déshumanisés. Ensuite, à partir de la fin du verset 14, on a un chant qui célèbre la souveraineté du Seigneur. Le commun fils d'homme est distinct de Dieu et il en rend humain. Et en même temps, il reçoit une souveraineté éternelle qui ne passera pas et une royauté qui ne sera jamais détruite comme celle de Dieu. Il est à la fois identifié au Seigneur et distinct de lui. Toutes les nations le serviront, ce qui contraste avec la quatrième bête. Les empires asservissent et tyrannisent les nations. Alors Daniel est angoissé au verset 15. Il reçoit l'interprétation par un ange. Les quatre bêtes sont quatre rois, quatre royaumes. Daniel a vu surgir la bête de la mer. C'est un caractère maléfique car elle sortait de l'antre du dragon. Le caractère terrestre des rois s'oppose au caractère céleste du commun fils d'homme qui lui arrive avec les nuées du ciel. Et puis pour revenir à la quatrième bête, le quatrième empire verra se succéder 10 rois. Le 11e, représenté par la petite corne, sera le dernier roi des empires de ce monde et persécutera les saints. Il blasphémera, tentera d'abolir la religion révélée par Dieu. Les saints, lui, seront livrés pendant 3 ans et demi. Cette période est limitée, comme j'en ai déjà parlé à propos d'Apocalypse 13. Dans l'Apocalypse, ça deviendra 3 ans et demi, c'est-à-dire 42 mois, c'est-à-dire 1260 jours. Bon, 3 et demi, c'est la moitié de 7, la moitié de la perfection, de ce qui est inachevé. Et l'idée semble être que c'est un temps limité pendant lequel les saints sont livrés au dernier roi, ce qui montre que Dieu a le contrôle et qu'il limite les actions des hommes. Si je récapitule un peu ce chapitre 7 en me référant à l'Apocalypse, je vous invite à écouter attentivement. Donc, Apocalypse chapitre 12, la femme demeure au désert un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est l'expression de Daniel 7. C'est le temps où la femme se trouve loin de la face du serpent. Le désert est un lieu de sollicitude et de protection divine toute particulière. Le dragon ne détruira pas la femme. Elle est hors de son atteinte et ne peut pas faire grand-chose contre elle. Dans Apocalypse 11, on a le martyr et la résurrection de 2 témoins. La bête monte de l'abîme et leur fera la guerre. La bête représente le pouvoir politique en place, l'État qui se prend pour Dieu, qui persécute le peuple de Dieu. Elle sera incarnée à la fin des temps par la personne de l'Antichrist. La bête parviendra même à tuer les 2 témoins. Daniel avait annoncé les choses différemment. Lui, il décrivait, disons, la même chose en représentant l'ennemi sous les traits d'une petite corne de l'animal qui symbolise le dernier empire de ce monde. Il dit « Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » Et puis en Apocalypse 13, on a la bête qui monte de la mer. Et sa figure s'inspire de la vision de Daniel 7. Qu'elle vienne de la mer suggère que c'est le monstre marin qui les envoie. Et dans le langage apocalyptique et dès l'Ancien Testament, la mer, c'est l'antre du Léviathan, qui représente le lieu d'où vient le mal. Et dans l'Apocalypse, Les eaux représentent encore le monde, les royaumes en question qui sont dans ce monde. Le chapitre 7 dans le livre de Daniel a un rôle charnière. Il appartient au récit de cour et au récit de vision. Daniel se tenait à la cour de Babylone. Il se tient ici à la cour céleste. Jusque-là, le Seigneur intervenait, mais il était invisible. Maintenant, il apparaît de manière visible. Qui est le commun fils d'homme? On apprend qu'il reçoit la domination sur les nations, donc ce n'est pas un ange. Certains y avaient vu Gabriel ou Michel. C'est donc le représentant du peuple de Dieu. Son règne éternel rappelle Ésaïe, verset 9. C'est le Messie, il a des traits humains, des traits divins. Au chapitre 2, le roi a vu une petite pierre qui vient frapper les pieds de cette immense statue, et ce simple choc a abattu la statue. Elle a grossi au point de remplir le monde. Daniel voit une vision céleste, le Père sur son trône. Quelqu'un s'avance comme un être humain reçoit la domination éternelle. Le message dans tout ça, c'est que Dieu prépare notre royaume qui, dans le temps, entrera en scène pour subsister éternellement. Il y aura très peu d'apparence au début. Une petite pierre, un homme à côté de ses monstres armés pour la dévastation. Et Dieu assure le triomphe éternellement de qui sera son royaume. Jésus a choisi d'ailleurs de s'appeler le Fils de l'homme, et certainement en référence à ce passage de Daniel. Il se présentait comme ça. On l'a vu lors du procès de Jésus. Vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Ça, c'est une citation de Daniel. Dans la vulnérabilité, il est venu établir son royaume. Sa venue est surnaturelle, sans prestige. La croissance va lui permettre de remplir la terre et il s'établira pour toujours. Le message de la persécution par la puissance de la corne pour ceux qui suivront le Fils de l'homme avant de recevoir tous les biens du royaume. Se souvenir de l'avertissement qu'il y aura beaucoup de tribulations pour ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. Et ce n'est pas une théologie de mensonge que d'annoncer l'évangile, puisqu'on reçoit la vie éternelle avec des persécutions dans les temps que Dieu mesure. Mais Dieu arrêtera ceux qui s'opposent à lui et qui font souffrir les gens. Nous allons nous arrêter là pour la deuxième partie et je poursuivrai prochainement dans un autre enregistrement afin que ce ne soit pas trop long. Que vous ayez le temps de relire et de relire encore ces passages et d'essayer de lire aussi l'Apocalypse avec les événements parallèles afin que vous puissiez être plus au clair. Voilà, je vous dis donc à la prochaine et dernière étude.